bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et aujourd'hui nous allons parler d'archéologie et de Gaza. Et ce n'est pas moi qui vais présenter l'émission, mais Laurence Giordano, à qui je passe la parole. À vous, Laurence.
À l'heure où les mots nettoyage ethnique, destruction, génocide, famine, pillage, désespoir se succèdent pour parler de Gaza, pour évoquer le quotidien de 2,3 millions de Palestiniens, à l'heure où cette petite bande de terre située entre la mer, Israël et l'Égypte est devenue une prison à ciel ouvert, un espace de désolation d'où l'on ne peut plus sortir à cause du blocus israélien, chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes palestiniens périssent sous les bombes ou par manque de soins, de nourriture ou encore d'accès à l'eau. Les bâtiments s'effondrent, les champs cultivés d'oliviers sont devenus des zones de terre battue. Que reste-t-il du patrimoine dans tout ça? Et n'est-il pas dérisoire dans cette situation catastrophique de parler du patrimoine historique de Gaza? Pourtant, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Et avec nous, une historienne et un historien. Anne-Marie Aidé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Syrie et de la Palestine médiévale. Et Fabrice Virgili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des hommes et des femmes en temps de guerre et des traces de la guerre au XXe siècle. Tous deux, vous participez avec une trentaine d'universitaires au projet ambitieux Gaza, inventaire d'un patrimoine bombardé, afin de recenser et documenter les lieux et en établir une cartographie. N'est-ce pas un véritable défi dans cette situation actuelle? Alors, une première question à Anne-Marie Aidé. Pourquoi est-il important de parler du patrimoine bombardé de Gaza dans ce contexte tragique?
Oui, bien sûr. La tragédie que vivent actuellement les Palestiniens est d'abord humaine avant d'être patrimoniale. Et le décompte des morts et des blessés est vertigineux. L'UNESCO dénombrait le 28 mai 2025, donc à la fin du mois dernier, 53 655 morts, dont 15 613 enfants. Sans compter, bien sûr, les morts indirectes, les innombrables blessés et les disparus sous les décombres. Aujourd'hui, le chiffre officiel de morts doit tourner autour de 55 000. Et à l'heure où nous parlons, il y a encore des dizaines de Palestiniennes et de Palestiniens qui meurent sous les tirs ou les bombes de l'armée israélienne. Alors, la destruction du patrimoine accompagne cette hécatombe. Elle en est même indissociable, car pour faire accepter l'horreur de ces massacres à l'opinion israélienne, mais aussi mondiale, il est nécessaire, un, de déshumaniser les Palestiniens, et c'est la phrase de Yoav Galant, l'ex-ministre de la Défense israélien, qui parle d'animaux humains qu'il faut éliminer, et deux, d'invisibiliser ces Palestiniens, pour affirmer qu'ils n'ont ni histoire, ni culture, ni identité propre, qu'ils n'existent pas. Et là, c'est la triste et fameuse phrase de Bezalel Smotrich, l'actuel ministre des Finances israélien, qui, à Paris, au printemps 2023, disait que les Palestiniens étaient une invention d'il y a moins de 100 ans, et qu'ils n'avaient ni histoire ni culture, et que donc ils n'existaient pas. Et ce n'est pas une simple déclaration d'un ministre plus extrémiste que les autres, car Golda Meir, en 1969, disait la même chose. Je la cite, « Qui sont les Palestiniens? Je ne connais personne de ce nom, ils n'existent pas. » Alors s'ils n'existent pas, et si ce sont des animaux humains, il devient évidemment beaucoup plus facile de faire accepter leur extermination.
Mais alors, pourquoi détruire un patrimoine historique, archéologique? Et quelle relation, au fond, faites-vous entre l'identité palestinienne et ce patrimoine de Gaza?
Pourquoi détruire un patrimoine historique? Parce que le patrimoine historique n'est pas déconnecté de la société palestinienne que le gouvernement israélien tente de détruire par tous les moyens. Le patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est un héritage culturel qui cimente un peuple, qui lui donne un sentiment d'appartenance commune et qu'on se transmet de génération en génération. Alors, ce patrimoine peut exister dans l'espace, ce sont les monuments, les paysages, il peut exister dans l'art, c'est la peinture, la sculpture, les objets dans les musées, mais il peut aussi être immatériel. C'est la langue, c'est la musique, ce sont les traditions populaires. Le patrimoine, c'est donc la trace tangible de l'histoire d'un peuple. Or, dans le cas de Gaza, reconnaître son existence, c'est reconnaître l'existence d'un peuple palestinien, ce que le gouvernement israélien se refuse à faire. Et certains hauts responsables disent et le répètent, les Palestiniens n'existent pas, il n'y a que des Arabes qui n'ont qu'à aller s'installer dans l'un des 22 ou 23 pays arabes qui existent de par le monde. C'est-à-dire qu'ils confondent totalement l'origine ethnique d'une population, arabe en l'occurrence, et son identité nationale, qui n'est bien sûr pas la même d'un bout à l'autre du monde arabe. Alors détruire le patrimoine historique, culturel, éducatif, gommer le passé et la mémoire des vivants comme des morts. Pensons à ce que les chars et les bulldozers israéliens ont fait dans les cimetières, en retournant les tombes et en sortant, en déterrant les corps. C'est enlever tout repère aux Palestiniens. C'est les empêcher d'affirmer leur identité, de s'affirmer en tant que nation, et nation, c'est-à-dire de leur interdire de former un peuple attaché à sa terre, unis par sa langue, sa culture, son histoire, qui serait à ce titre autorisé à s'autodéterminer et donc à fonder un État. Et on sait que le gouvernement israélien, soutenu par une grande majorité de la société israélienne, veut à tout prix empêcher la naissance de cet État. La destruction du patrimoine est donc à ce titre fondamentalement politique. Et à ce titre aussi, c'est un volet essentiel du nettoyage ethnique et du massacre de la population civile que nous évoquions en commençant. Je voudrais juste ajouter, pour terminer sur cette question, c'est que le patrimoine de Gaza et des Palestiniens n'est pas seulement celui des Palestiniens. C'est aussi le nôtre, parce que c'est un patrimoine universel. Et face à sa destruction, au nettoyage ethnique, au massacre, à la négation même de l'existence d'un peuple et de son histoire, l'inaction de l'Union européenne depuis plus de 20 mois est incompréhensible. Que trouvera-t-elle cette Union européenne à dire demain lorsque d'autres violations du droit international se produiront à travers le monde? Comment peut-elle ne pas réagir aujourd'hui face à l'effondrement de tout ce qu'elle a construit depuis 1945? C'est sa crédibilité et sa légitimité qui sont en jeu, et c'est pour cela que nous sommes tous concernés par l'effacement du peuple de Gaza, de sa culture et de son patrimoine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Thank you.
écouté le trio Joubran. Ce sont trois frères palestiniens de nationalité israélienne qui composent et jouent de manière innovante du oud. Le oud, c'est un instrument à cordes pincées très répandu dans le monde arabe. Ils étaient ici accompagnés du percussionniste Youssef Beich. Alors, gardez la mémoire des lieux et du passé, c'est le pari et l'engagement de chercheuses et de chercheurs en sciences humaines. Ils sont historiens, historiennes, sociologues, archéologues, géographes, et ils ont construit le projet Gaza, inventaire d'un patrimoine bombardé. Fabrice Virgili, comment ce projet est-il né ?
En fait, je crois qu'on peut commencer par dire que ce projet est né dans un grand silence. On était en janvier, février, mars 2024. La destruction de Gaza avait commencé depuis 2-3 mois. Et on était un certain nombre à être, je crois comme toute la profession, quasiment tétanisé, à ne plus oser rien dire de ce qui se passait. Moi, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient, je suis un historien des guerres, des destructions ou de la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale. D'autres collègues pouvaient être géographes, travailler sur la guerre d'Algérie ou le Proche-Orient médiéval, mais on sentait l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Et donc, la réponse qu'on a essayé d'apporter avec des échanges comme ça, presque autour d'une tasse de café, un peu dérisoire, c'est « faisons notre métier ». Faisons notre métier, c'est-à-dire n'analysons pas forcément ce qui se passe, l'historien a besoin de temps pour faire cela, mais commençons simplement par reprendre les listes de l'UNESCO. L'UNESCO avait commencé à publier la liste des sites endommagés ou détruits. À ce moment-là, le doute pouvait être permis sur le niveau de destruction. Et disons ce que sont ces sites. Commençons par dire, voilà, ce site a été construit au XIIe siècle, celui-là est un ancien monastère byzantin. Racontons cette histoire parce que, en fait, on s'est aperçu très rapidement que la plupart des gens, et parmi nous, moi compris, ne connaissions rien à ce patrimoine. L'image d'une immense zone densément peuplée, totalement urbanisée, moitié de camps de réfugiés ou d'habitats plus anciens, dans la poussière et dans ce blocus, effaçait complètement, de fait, la réalité d'une culture, d'une richesse qui était celle de Gaza. Et donc on a commencé comme ça à faire, reprendre les listes de l'UNESCO, qui se contentait de nommer un lieu. Alors nommer un lieu, si on connaît bien, c'est formidable. Mais si on ne connaît pas, ça n'évoque rien. Et de venir renseigner chacun de ces lieux en faisant de l'historiographie, de la bibliographie. Il faut savoir que beaucoup de ces sites patrimoniaux, depuis le 19e siècle, ont intéressé des voyageurs, des archéologues, des historiens, des géographes, qui ont commencé à produire un savoir scientifique. Eh bien, c'était ça, rassembler le savoir scientifique pour chacun de ces lieux. Et comme ça, au fur et à mesure, en créant ce qu'on appelle un carnet hypothèse, c'est-à-dire un bloc de recherche qui est évidemment ouvert, dans une logique de science ouverte, à tout le monde, aussi bien dans le milieu universitaire qu'au grand public, nous avons petit à petit constitué une liste qui est actuellement de 104 lieux que nous avons choisis. D'une part parce qu'ils étaient proposés par l'UNESCO, mais parfois nous en avons ajouté d'autres, j'y reviendrai, par exemple les universités ou les cimetières. Et pour chacun d'entre eux, nous avons demandé à des collègues qui connaissaient soit très bien la période, soit l'architecture, de réaliser une fiche. Ce processus est en cours. Nous devons avoir actuellement à peu près une quarantaine de lieux renseignés. C'est-à-dire, si vous allez sur le site Gaza Histoire, vous verrez apparaître ces lieux-là et vous pouvez savoir ce qu'il en est, avoir une bibliographie. Mais évidemment, on ne pouvait pas s'arrêter que là. Il fallait aussi dire ce qu'ils étaient en train de devenir, c'est-à-dire les dommages, la destruction qu'ils pouvaient subir. Ça, c'était la deuxième phase. Et puis la troisième phase, qui n'est pas entamée, mais sur laquelle on reviendra, je pense, et sera la question de la reconstruction. C'est-à-dire, nous voulions avoir cette approche en trois temps. Alors, je vais peut-être prendre trois exemples pour montrer la diversité de ces lieux. Parce que nous aurions pu discuter des heures et des heures, et même plus, sur qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le patrimoine. Nous avons commencé de manière pragmatique par cette liste de l'UNESCO. Je prendrai le premier exemple, qui est le marché de l'or, le souk Al-Kasseria, construit au XIVe siècle, et qui était un élément très important de la vieille ville de Gaza, ce qu'on appelle Gaza City, mais Gaza City, avant d'être une appellation en langue anglaise, était une des plus anciennes villes du monde, de l'histoire humaine. Eh bien, au XIVe siècle, le portique sud de la grande mosquée, qui se trouve juste à côté, se trouve prolongé par cette rue qui devient un marché, comme on en trouve dans beaucoup de villes de la région, hein, où ces souks sont des rues pratiquement couvertes, où se trouvent les boutiques les unes à côté des autres. Eh bien, ce souk qui est important, qui est vraiment dans l'histoire de Gaza depuis plusieurs siècles, avait déjà été, en 1917, bombardé, parce qu'il faut savoir que Gaza a subi, ça ce n'est pas le seul pays, le territoire du monde, plusieurs conflits. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Français essayent de s'emparer de Gaza et détruisent la ville. Le souk est reconstruit. Puis, l'histoire passe. À plusieurs reprises, lors des dernières offensives israéliennes au cours des années 90-2000, encore des parties endommagées, et décider une grande restauration du souk al-Qassiriya. Et finalement, cette restauration est terminée en 2022. Depuis l'offensive israélienne, cette rue a été bombardée à 3 reprises. Le portique nord, le portique sud, le milieu, en l'espace de 6 mois. On voit bien que là, il ne s'agit pas simplement de dommages collatéraux, mais de la volonté de détruire cette rue de l'or. Le deuxième exemple est plus ancien. C'est un site byzantin, archéologique, redécouvert à la fin des années 90. Il jouxtait le grand camp de réfugiés de Djabalia sur presque 1000 mètres carrés, dont un tiers de mosaïques. Eh bien, de la même manière, ce site archéologique byzantin a été, lui aussi, à de nombreuses reprises, détruit, restauré, et aujourd'hui se trouve gravement menacé. On peut tout de même voir une des mosaïques qui a été qui est présentée actuellement à l'Institut du monde arabe dans l'exposition sur Gaza qui aura lieu jusqu'en novembre. Et enfin, pour terminer et pour montrer la diversité, deux cinémas. Pourquoi deux cinémas ? Parce qu'il y a un âge d'or du cinéma palestinien dans les années 50. Qu'il y a à Gaza, rien qu'à Gaza, hein, 6 cinémas qui font le bonheur de la population de Gaza au cours des années 30, 40, 50, qui vont au cinéma. Le cinéma Al-Nasser et Al-Samir. L'un construit en 1940, hein, avec une tour en art déco qui imite un peu building. Ces deux cinémas ont été également totalement détruits, même s'ils ne fonctionnaient plus.
Alors, on voit toutes ces destructions hein, du patrimoine. Alors, Anne-Marie Aidé, l'inventaire que vous réalisez donc montre l'importance hein, de ce patrimoine. Comment expliquer cette richesse ? Autrement dit, la question que je vous pose, c'est quelle est l'histoire de Gaza ?
L'histoire de Gaza est très ancienne. Fabrice vient de dire que c'est l'une des plus anciennes cités du monde, en tout cas de la région. Et son histoire commence il y a 5000 ans. Et c'est une histoire au cours de laquelle une quinzaine de civilisations vont se succéder sur son territoire. Gaza était une ville très convoitée parce que la route terrestre qui relie la Syrie à l'Égypte passe par son territoire. Elle passe par son territoire et tous les grands conquérants, qu'ils soient venus d'Afrique ou d'Asie, l'ont empruntée depuis les pharaons égyptiens au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'au général britannique Allenby, que Fabrice aussi évoquait à demi-mot tout à l'heure, en 1917. Donc cette position stratégique a fait de Gaza une place frontière, une tête de pont indispensable à toutes les expéditions qui partaient de Syrie vers l'Égypte et inversement. Et sa position de carrefour a fait d'elle aussi un marché ouvert sur le commerce, à l'ouest vers la Méditerranée, au nord vers la Syrie et la Palestine, au sud vers l'Égypte et l'Arabie et au-delà l'océan Indien, d'où venaient les épices, les aromates, l'encens, les pierres, les pierres semi-précieuses. Et c'est ce commerce qui a assuré à Gaza une grande prospérité à maintes reprises dans son histoire. Alors là aussi, je ne citerai que quelques exemples. À l'époque où Gaza était sous la domination assyrienne, c'est-à-dire des Mésopotamiens, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le port de Gaza, qui se trouve sur le site de Blaria, qui est à quelques kilomètres à l'ouest de l'ancienne ville de Gaza et qui fut appelé à l'époque grecque Anthédon, ce port assurait au pouvoir assyrien un marché très lucratif, tout en lui permettant de contrôler le littoral dans la région. Et des vestiges de l'enceinte fortifiée de ce port ont été découverts lors des fouilles franco-palestiniennes menées à la fin des années 90 et au début des années 2000 sous la direction scientifique de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. À l'époque hellénistique, quelques siècles plus tard, après sa conquête par Alexandre, une conquête relativement sanglante, en 332, Gaza devient l'une des riches cités grecques de la région. Elle reçoit et redistribue les produits grecs au Proche-Orient et frappe même des monnaies sur le modèle de celle d'Athènes. Et dès cette époque, Gaza exporte son vin dans ces fameuses amphores qu'on appelle les amphores de Gaza, qui sont des amphores très allongées, au corps très allongé avec un col très court, que l'on retrouve sur les rivages de la Méditerranée et même sur les rivages de l'océan Indien. La culture grecque aussi pénètre les élites locales et va marquer la vie artistique et intellectuelle de la ville pendant plusieurs siècles. Et à l'époque hellénistique et romaine, Gaza va se couvrir de monuments magnifiques, des temples dédiés à différentes divinités, Zeus, Marnas en particulier, des sanctuaires, un théâtre également, un hippodrome, et des monuments d'ailleurs qu'on ne connaît en fait que par les textes, parce que l'archéologie est difficile à mener dans un tissu urbain aussi dense que celui de Gaza. Et puis encore un peu plus tard, au début du 4e siècle après Jésus-Christ, quand Gaza commence timidement à se christianiser, Hilarion de Gaza fonde l'un des plus anciens monastères de la région, à quelques 10 km au sud de Gaza, qui est inscrit aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et aux deux siècles suivants, Gaza, désormais dominé par les Byzantins, connut aussi un important développement de sa vie intellectuelle, notamment dans les études de rhétorique, au point que l'on parle de l'école de Gaza pour désigner ce courant intellectuel. Alors Gaza fut conquise par les musulmans vers 635 et a fait partie avec Jérusalem de la province qu'on appelait le Joun de Palestine. Elle a connu en particulier une période de grande prospérité à l'époque mamelouque, entre 1260 et 1516, au cours de laquelle elle a gardé le statut d'une capitale régionale, gouvernée par un représentant du sultan qui, lui, résidait au Caire. Et ce représentant du sultan a toujours été choisi parmi les émirs éminents de l'Empire. Il résidait dans un palais qui va prendre à l'époque ottomane le nom de palais du Pacha et même parfois désigné sous le nom de fort de Napoléon parce que Napoléon y a passé trois nuits en 1799. Donc, la plupart des monuments historiques qui avaient été conservés à Gaza et de l'époque musulmane jusqu'à la destruction partielle ou totale par l'armée israélienne, datés de cette période mamelouque, souvent agrandis, remaniés ou restaurés à l'époque ottomane, après 1516. Fabrice a évoqué tout à l'heure la Kaysaria ou marché de l'or. On peut citer aussi la grande mosquée El Omari ou encore un bain, le bain des Samaritains, ou qu'on appelle en arabe le Hammam al-Samara.
Aligre FM 93.1. Thank you.
Vous venez d'écouter l'ouverture de La Force du Destin de Giuseppe Verdi par le West Eastern Divan Orchestra, un orchestre symphonique fondé par Edward Saïd, qui est professeur de littérature palestinien, et par le chef d'orchestre israélien Daniel Barenboim. Cet orchestre réunit des jeunes musiciens israéliens, palestiniens, syriens, libanais, égyptiens et jordaniens qui jouent ensemble chaque année en Europe. Alors Fabrice Virgili, revenons au projet Gaza et Histoire que vous menez avec un collectif de spécialistes en sciences humaines et sociales. Au-delà de l'inventaire, quels sont les objectifs de ce projet et que se passe-t-il très concrètement sur le terrain? Ces sites antiques sont-ils protégés par exemple?
Alors évidemment, les choses sont totalement différentes si on se trouve à distance. Que ce soit en France ou en Europe, et sur place. Je dirais deux mots sur nos objectifs, mais avant ça, et on entendra tout à l'heure René Elter en parler à propos du projet Intikal, la question de la protection de ces sites bombardés, détruits, partiellement détruits, endommagés, s'est évidemment posée, mais très vite, il apparaissait que la priorité existentielle de la population de Gaza et des jeunes archéologues dont parlera René Elter était la survie et non pas la protection de ces sites. Même s'ils gardaient ça à l'esprit et que chaque fois qu'ils pouvaient, sans prendre de risques, aller intervenir, des choses très simples, mais après la destruction d'un toit qui protège une mosaïque, mettre une bâche pour empêcher que la pluie aggrave encore l'état de cette mosaïque, peut être un geste assez simple, mais qui va être précieux pour l'avenir. Seulement, évidemment, c'était en aucun cas nous qui, d'ici, allions leur dire « ça serait bien d'aller protéger ce site », etc. C'est impensable. Donc, eux ont pu le faire, et surtout au moment de la trêve, en janvier-février dernier, dernier, ils ont pu, là, agir un peu plus, refermer des portes de réserve de matériaux archéologiques qui avaient été arrachés, essayer de faire une première intervention d'urgence, photographier aussi l'état des sites, parce que les photos aériennes, nous les avons évidemment utilisées comme tout le monde, mais rien ne vaut une expertise sur le terrain. Donc ça, c'est la première des choses sur place. Nous, à distance, nous avons d'autres projets, évidemment, je reviendrai peut-être sur les questions urbanistiques ensuite, mais tout d'abord, parce que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, historiennes ou historiens, nous avons été évidemment frappés par le fait que les archives municipales de Gaza soient une des premières choses détruites lors de l'offensive de l'armée israélienne. Et qui dit archives municipales de Gaza, on peut se dire, bon, c'est des vieux papiers, ça n'a pas grande importance. Mais non, ce sont tout ce qui était de l'organisation de la cité. Des cartes, des études d'ingénierie, des circuits de contrôle et surveillance des puits d'eau, les réseaux d'égouts, tout ce travail-là reposait au sein des archives. Mais également plus de 110 000 dossiers qui représentent le cadastre, les actes de propriété. Et on voit l'enjeu là de la destruction des actes de propriété. Parce que penser à la reconstruction alors que tous les actes de propriété sont détruits, c'est déjà poser le problème de à qui appartient tout ça? Et on sait bien, parce que des reconstructions dans l'histoire, on en a beaucoup, que la question de la propriété du sol ou du bâti, même endommagé, est essentielle. Donc on voit bien la volonté là, de détruire ces archives. Donc ce que nous essayons et ce que nous projetons de faire, c'est d'essayer de contacter, de retrouver, de repérer toutes les personnes qui ont pu ces dernières années ou décennies passer par ces archives et faire ce que nous faisons quand nous allons dans les archives. Alors, pour la période récente, des photographies, pour des périodes plus anciennes, des photocopies ou simplement des retranscriptions pour essayer finalement de reconstituer par la copie, mais il n'y a pas d'autre choix, ce qu'étaient ces archives-là. Un autre exemple, les bibliothèques. Autre bâtiment détruit très rapidement, la bibliothèque de la municipalité de Gaza. Inaugurée le 1er juillet 1999 et très largement financée par la ville de Dunkerque. Une bibliothèque municipale pour permettre au plus grand nombre d'accéder évidemment à ces ouvrages. plus de 10 000 ouvrages qui étaient comme ça à disposition de la population. Eh bien, la bibliothèque municipale de Gaza, comme d'autres bibliothèques, elle n'était pas la seule, hein, il y a plusieurs dizaines de sites de bibliothèques qui se trouvaient à Gaza, a été détruite et à partir du 27 novembre 2023. On est là aussi au tout début de l'offensive israélienne. Eh bien, autour de cette bibliothèque, nous espérons pouvoir monter un projet pour que les Gazaouis puissent continuer à lire, non pas par le livre matériel, parce que ceux-ci sont quasiment tous détruits, mais par le livre en ligne, hein, à travers des téléphones. Aujourd'hui, le téléphone, et on voit aussi à quel point Israël essaye de couper systématiquement les réseaux qui permettent de se connecter, mais le téléphone, alors, ce n'est pas la 5G, ce n'est pas le dernier modèle, hein, mais c'est un lien essentiel, d'abord entre Gazaouis pour communiquer, pour savoir si la famille a subi, s'il y a eu des victimes ou pas. Donc c'est un lien communautaire essentiel, mais aussi de savoir, parce que c'est un lieu, hein, où la question du savoir en Palestine, de la transmission de la connaissance, était absolument essentielle. Donc ça, c'est une autre partie des objectifs que nous avons. Nous sommes, il faut bien comprendre, un projet en développement, au fur et à mesure, des bonnes volontés, des gens qui nous rejoignent. Il y a actuellement, il y a justement des gens qui travaillent dans des bibliothèques, des bibliothèques universitaires ou nationales ou municipales qui nous rejoignent. Un projet essentiel pour permettre aux Gazaouis de lire à nouveau.
Alors, dans ce bilan, hein, qui est difficile, qui est lourd, est-ce qu'il y a finalement une possibilité de... Est-ce qu'il y a un espoir, une possibilité de reconstruction, restaurer, reconstruire le patrimoine? De quelle manière c'est envisageable ou pas?
Alors, c'est vrai, quand on voit les images actuelles de Gaza, on a du mal à imaginer la reconstruction. Mais je crois qu'elle est... non seulement envisageable, elle doit avoir lieu. Et on le sait, moi, encore une fois, j'ai travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. Quand on voit les images de nombreuses villes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comment imaginer ce qu'elles sont devenues? Je me souviens être allé à Hiroshima. Hiroshima a été pulvérisée. Et aujourd'hui, Hiroshima est une ville où vivent des habitants, où il y a un marché au centre. Alors évidemment, il y a aussi les mémoriaux de cette période de destruction. Et je pourrais continuer à en citer des dizaines. Donc Gaza doit être reconstruit. Et là aussi, ce que nous faisons, nous l'espérons, pourra peut-être servir aussi bien aux urbanistes qu'aux juristes. Parce que quand on reconstruit après un tel niveau de destruction, on est évidemment, les priorités ne sont pas forcément celles du patrimoine. Les priorités, c'est de restaurer ou reconstituer une trame urbaine, parce qu'on en est là aujourd'hui à Gaza. Certains quartiers, hein, sont détruits jusqu'au tracé des rues. Donc il y a vraiment tout à remettre en place. Est-ce qu'on essaye de refaire à l'identique? C'est le choix, par exemple, en France, après-guerre, qui a été fait pour Saint-Malo. Ou est-ce que on crée, il y a une innovation urbanistique, architecturale, une nouvelle ville, comme ça a été au Havre? Cette question et ce choix s'est posé dans le monde entier et se posera aussi à Gaza. Donc savoir, et tout le travail que nous faisons, entre autres avec l'Institut Géographicité et Sébastien Hall, qui a fait un travail extraordinaire de précision, de cartographie des lieux, savoir précisément où sont chacune de ces maisons de la période Mamelouk, où sont exactement chacune de ces bibliothèques, est essentiel, parce que le jour venu de la reconstruction, il sera important de savoir où tout ça se trouvait, hein, pour le restaurer. Donc la trame urbaine, grâce à la géographie, tout ce travail de recension, de bibliographie pour pouvoir retrouver les plans. Si vous allez sur le site Gaza Histoire, vous verrez pour beaucoup de lieux, nous sommes allés chercher et trouver dans un certain nombre de cas les plans, hein, qui sont ceux de ces bâtiments historiques. Et ça aussi, ça va être un moment essentiel si on veut reconstruire. Pour terminer sur cette question, je voudrais aborder un point en particulier, c'est celui de l'éducation. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, UNESCO évalue à 95% le nombre des écoles détruites. Les 12 établissements d'enseignement supérieur de Gaza ont été également ciblés dès le début de l'offensive israélienne. Plus aucun ne fonctionne aujourd'hui normalement. Plusieurs d'entre eux ont subi, non pas une frappe, mais deux, trois, ou ont été anéantis à l'explosif, comme par exemple le campus de l'Université d'Israël, rasé le 17 janvier 2024, après que l'armée israélienne ait elle-même occupé pendant 70 jours ce lieu. Donc l'argument qui est « il y avait des terroristes dans l'université » ne fonctionnait plus, parce qu'au moins depuis 70 jours, il n'y en avait plus, et pourtant, on voit ces images très impressionnantes de la destruction de cette université. Donc là, il y a un travail essentiel, et on a choisi maintenant, comme morceau, un morceau d'un jeune rappeur palestinien qui s'appelle MC Abdul, et ce morceau est intitulé « The Pen and the Sword », « La plume et l'épée ». Et je crois que MC Abdul est né en 2008 à Gaza, et toujours à Gaza. Il rappe depuis l'âge de 12 ans, hein, et il veut montrer, et on le voit à travers les images, hein, combien au milieu de la destruction, parce qu'il est dans les ruines, c'est pas un décor de clip, hein, c'est son lieu de vie, il rappelle, et je traduirai donc une des phrases de son texte, il dit « Je leur rappellerai que la plume est plus puissante que l'épée. L'éducation que nous défendons sauvera le monde. » Je rappellerai également que la radio, le MOOV de Radio France l'avait intégré dans sa rubrique « Le meilleur rappeur du monde » en juin 2023, hein, avant le début de cette guerre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
He wanted to be a doctor, but he don't have those options. Intentional, it's calculated. I'd be lying if I said I wasn't aggravated. I ain't smiling cause I ain't happy. Know how many times I pray for peace and peace ain't happy. Still get on my rug and pray for peace, still gotta take actions. People held responsible for their actions. Until then, we gotta stay active. We need change, that change needs to be data-driven. Accurate, comprehensive, and since we the victims, we deserve a voice in day-to-day decisions. And we can dig these generations out these grave conditions.
Éducation et formation sont justement au cœur du projet Intical, une ONG créée en 2017 par Première Urgence Internationale et l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Nous allons à présent écouter une interview de René Helter, responsable du projet scientifique Intical.
René Helter, vous êtes archéologue et vous dirigez le programme scientifique et de préservation du monastère Saint-Hilarion sur le territoire de Gaza. Vous êtes aussi coordinateur du programme Intical et auteur de l'ouvrage intitulé « Gaza, comment transmettre le patrimoine » paru cette année aux éditions Rive-Neuve. Pourriez-vous nous dire quel est l'objectif de ce programme et à qui il s'adresse ?
Alors ce programme, il a pour vocation de former des jeunes, des étudiants diplômés en architecture et en archéologie au métier du patrimoine. Il a également pour fonction, en fait, de s'appuyer sur la résilience de ces jeunes palestiniens et de leur permettre de devenir, en fait, une force sociale et économique dans la communauté.
Et il s'adresse à des jeunes gens, à des garçons, des filles ?
Alors, il s'adresse à des femmes, à des hommes, tous diplômés. Des universités de Gaza. L'université islamique de Gaza formait des jeunes archéologues et des architectes, et l'université de Palestine formait également des jeunes architectes. L'idée, en fait, de la construction de cette équipe, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire et également une équipe mixte où on est à peu près à 50% de femmes et d'hommes. Pour vous donner un exemple, nous avons formé plus de 100 étudiants depuis 2017. Nous en avons sélectionné 40 et aujourd'hui, ils sont à peu près équivalence. Il y a 20 femmes et 20 hommes, en fait, qui constituent cette équipe Intical.
Et plus précisément, quelles sont les formations qui sont proposées à ces étudiants et étudiantes ?
Alors, les formations proposées donc à ces jeunes sont en lien avec les différents métiers du patrimoine, métier de la restauration du patrimoine et métier de l'archéologie. Et donc quand on dit métier de la restauration du patrimoine, ça va autant de la taille de la pierre qu'à la restauration de pavements, de mosaïques, d'enduits peints. Et dans les métiers de l'archéologie, vous avez toute la chaîne opératoire entre la fouille, le dessin, la photographie, la restauration d'objets et également tout ce qui est en lien avec la pré-publication, voire la publication.
Alors, dans ces formations, vous avez aussi des formations à des méthodes archéologiques modernes, du genre de la photogrammétrie, de la zooarchéologie, de l'anthropologie funéraire ?
Totalement, totalement. Donc, nous avons mis en place trois formations. Une formation à la photogrammétrie en lien avec l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, qui depuis Strasbourg, en fait, via des conférences en visio, a formé une équipe, une équipe qui aujourd'hui est totalement autonome. Et ensuite, on travaille avec deux spécialistes, un zooarchéologue, Hervé Monchaud, qui a formé ces jeunes à l'étude et à l'évaluation justement des restes d'eau d'animaux. Et puis Tobias Hofstetter, anthropologue attaché à l'Université de Lausanne, aux universités de Lausanne et de Genève, qui les a formés à l'anthropologie funéraire dans le cadre du projet du cimetière romain de Art Moharbin, qui est situé au nord de Gaza, sur le territoire de la municipalité de Jabalier. Et l'ensemble, en fait, de ces projets, en fait, sont chapeautés par l'ONG Première Urgence Internationale, qui apporte, en fait, sa ressource humanitaire et en même temps gestion des ressources humaines, et l'École biblique archéologique française de Jérusalem, qui met en place le cadre académique. Et bien entendu, nous sommes associés aux Antiquités de Palestine pour l'ensemble de nos programmes.
Enfant, je ramassais des pierres pour les lancer sur les chars. Aujourd'hui, je ramasse des pierres anciennes pour montrer au monde qu'ici, c'est la Palestine.
Aujourd'hui, nous savons dans quelle situation tragique se trouvent les Palestiniens de Gaza, et toutes les activités archéologiques sont bien sûr à l'arrêt. Mais avant le 7 octobre 2023, comment pouvait-on être archéologue sur ce territoire encerclé par l'armée israélienne, où rien ne rentre ni ne sort sans son autorisation ?
Alors, il fallait d'une part être ingénieux, inventif, comme par exemple pour tous les métiers de la restauration. En fait, il a fallu créer, par exemple, je vais vous donner un exemple simple, nous avons restauré des maçonneries anciennes sur le site du monastère de Saint-Hilarion, donc on a été dans l'obligation, du fait justement de ce blocus sur le matériel et les outils, nous avons été dans l'obligation en fait de créer nos propres outils, donc des grandes scies passe-partout, des outils pour tailler la pierre. Et le fait en fait de ne pas avoir des gisements en fait, la possibilité en fait d'avoir accès à des gisements de pierre à l'extérieur de Gaza, donc nous avons dû réouvrir sur Gaza des carrières qui nous ont permis de travailler. Ensuite, il y a eu la problématique en fait de l'entrée des experts, qui est aussi important, hein, les différents experts en fait qui ont formé ces différents jeunes. Donc là, c'est tout un travail administratif qui est géré par l'ONG Première Urgence Internationale avec les services spécialisés de l'armée israélienne pour permettre en fait à ces différents experts de rentrer. Sinon, après, à l'intérieur de la bande de Gaza, à partir du moment où vous avez les experts, à partir du moment où vous avez le matériel, il n'y a plus qu'à.
Oui, et est-ce que vous avez aujourd'hui des informations sur l'état des sites sur lesquels vous avez travaillé avec avec vos équipes? Est-ce que le programme Intikal est totalement à l'arrêt? Comment voyez-vous les choses pour l'avenir?
Alors, après le 7 octobre, en fait, le programme Intikal ne s'est pas arrêté. Il continue et il va continuer. Il a été plus ou moins actif, on va dire, essentiellement dans de la préservation. Ça veut dire mettre une bâche, réenterrer des vestiges, refermer une porte, récupérer des objets. En gros, jusqu'en janvier de cette année. Ensuite, il y a eu ce couvre-feu. On a eu la possibilité de retourner sur certains sites, de commencer à faire du nettoyage. Après, bien entendu, un déminage incontournable et obligatoire. Mais depuis la mi-mars, en fait, on a demandé à nos collègues, au vu de la situation et de la gravité et de la dangerosité justement des différents bombardements, de rester chez eux. Et donc depuis mars, le programme est au ralenti. Mais bon, à côté de ça, nous continuons à faire du plaidoyer. Actuellement, il y a une très très belle exposition à l'Institut du Monde Arabe qui présente justement l'archéologie de Gaza. Nous avons édité un livre autour d'Intikal. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité ne s'arrête pas. Nos collègues sont là et il faut savoir que à partir du moment où il y aura un cessez-le-feu durable, nous aurons la possibilité de continuer à travailler. Nos partenaires, le British Council, la Fondation Alif, l'Agence française de développement, nous soutiennent et continueront à nous soutenir. Donc, dès que la situation le permettra, l'ensemble de l'équipe en fait se remettra au travail. Alors, il ne s'agira pas de faire de la fouille archéologique, mais déjà de sauver, d'évaluer et de préparer des phases suivantes, justement pour entretenir, reconstruire et remettre en valeur en fait ce patrimoine qui a pour partie souffert.
Merci beaucoup René Alter.
De rien, c'est moi qui vous remercie.
Alors vous pouvez vous procurer le dernier ouvrage de René Alter qui est paru en février 2025 aux éditions Rive-Neuve, qui s'intitule donc Gaza, comment transmettre le patrimoine. Le programme Intikal. Vous pouvez aussi consulter le site en ligne Gaza, inventaire d'un patrimoine bombardé, et bien sûr aussi aller découvrir à l'Institut du Monde Arabe l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire, et cela jusqu'au 2 novembre. Alors Fabrice Virgili, vous avez contribué à la réalisation de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, bien entendu, contribuer. Disons qu'on a été associé surtout pour la partie cartographique. Donc la cartographie dont je parlais tout à l'heure figure dans l'exposition, ce qui permet de bien localiser les lieux qui sont présentés dans l'exposition et qui ont été endommagés ou détruits. Mais je voudrais revenir sur le cadre plus général de cette exposition parce que on a là un exemple assez étonnant finalement de ce qu'est le patrimoine. En fait, les pièces qui sont présentées lors de cette exposition avaient été présentées à Genève en 2006. Il y avait une grande exposition au Musée d'art et d'histoire de Genève en 2006, avec 400 pièces qui venaient d'un collectionneur qui s'appelle Jaouda Troudari, qui a également fait un musée qui se trouve à Gaza. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces pièces, ensuite, pour des raisons à la fois douanières, logistiques, politiques, finalement, peu importe, sont restés coincés à Genève depuis 2006, dans ce qu'on appelle le port France, c'est-à-dire la zone des douaniers de Genève. Et à partir de novembre 2023, à l'inverse, le musée créé par Jaouda Troulari a, lui, été détruit, également très rapidement, hein, parmi pratiquement les premiers objectifs. La collection sur place a été en partie pillée, en partie anéantie. Et donc, finalement, ces pièces qui restaient bloquées à l'extérieur sont devenues le témoignage. Hein, 400 pièces à Genève, là, il y en a 100 présentées, une super mosaïque dont je parlais tout à l'heure du monastère de Jabalia, mais aussi d'autres superbes statues qui couvrent la période de l'âge du bronze jusqu'à la période ottomane. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller visiter cette exposition qui se tient jusqu'au 2 novembre, les trésors sauvés de Gaza.
Eh bien, un grand merci à Anne-Marie Hédé et à Fabrice Virgili. Merci aussi à Fadim Deli pour le montage son de l'interview de René Alter. Vous avez pu entendre hein, au cours de cette interview un court extrait d'un film documentaire qu'on vous conseille, « Sous les pierres de Gaza » de Jean-Gabriel Léno, réalisé en 2006. Vous retrouverez références et liens internet sur le site d'Aligre FN. Bonne lecture et bonne expo à toutes et à tous. Un grand merci aussi pour nous avoir invités sur Aligre FM.
Merci à vous. On est dans La vie est un roman et je voudrais remercier les deux personnes qui sont derrière la vitre, René Clancy et Lucas Panture. Merci de votre soutien technique et à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.